Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Dans le monde, dans nos tasses ». Christian Grataloup propose une géohistoire du petit déjeuner européen à partir de ses boissons les plus ordinaires en apparence thé, café et chocolat. Publié chez Dunod dans cette édition, cet essai montre que ce rituel matinal ne résulte ni d'une tradition purement européenne ni d'une simple évolution des goûts. Il est le produit de circulations intercontinentales, de conquêtes de plantations, de rapports marchands et de transformations sociales engagées depuis les débuts de la mondialisation moderne. Géographe et spécialiste de géohistoire, Grataloup relie les origines asiatiques, arabes et américaines de ces denrées à leur adoption progressive en Europe, surtout entre les 17e et 18e siècles. Le livre ne se réduit donc pas à une histoire alimentaire. Il utilise la tasse comme une échelle concrète pour examiner la formation de rapports de domination entre espaces producteurs et consommateurs. Accessible tout en étant dense, il invite à voir dans un geste quotidien les traces matérielles et historiques du monde connecté. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le petit déjeuner comme archive de la mondialisation moderne. Le point de départ du livre est volontairement familier, les boissons servies au réveil semblent appartenir depuis toujours aux habitudes européennes. Grataloup inverse cette impression en rappelant que le théier, le caféier et le cacaoyer sont originaires de régions extérieures à Europe tempérée. Leur présence dans les cuisines. Les cafés et les hôtels européens supposent donc des routes maritimes, des échanges commerciaux, des techniques de conservation, des transformations industrielles et des habitudes sociales nouvelles. Le petit déjeuner devient ainsi une archive concrète de la mondialisation. Il permet de suivre le passage de produits longtemps rares ou exotiques vers une consommation plus régulière et plus large. Cette approche a une portée méthodologique. Plutôt que de traiter la mondialisation comme une abstraction économique, elle la rend observable dans des objets consommés chaque jour. Le livre met également en évidence la dimension temporelle de ce processus. Les goûts ne circulent pas seuls et instantanément. Ils se stabilisent à travers des institutions commerciales, des modes de préparation et des marchés. En examinant 3 siècles de pratiques matinales, Grataloup montre comment une consommation locale peut condenser des relations à grande distance. La tasse relie donc le foyer européen aux territoires de culture, aux ports, aux intermédiaires et aux marchés mondiaux. Deuxièmement, thé, café. Cacao et sucre des produits façonnés par les empires, le livre insiste sur le fait que la diffusion européenne du thé, du café et du chocolat ne peut être séparée de l'histoire coloniale. Ces produits ont été intégrés à des systèmes de circulation dominés par les puissances européennes, même lorsque leur lieu d'origine et leur savoir de préparation se situaient ailleurs. Le café renvoie notamment aux espaces arabes, le thé à Asie orientale et le cacao aux Amériques. Leur appropriation commerciale modifie les rapports entre producteurs, négociants, États et consommateurs. Le sucre occupe une place décisive dans cette histoire, car il transforme les boissons stimulantes ou amères en produits adaptés aux préférences de consommation européennes. Son expansion est indissociable des plantations et de l'esclavage, ce qui donne au rituel du petit déjeuner une profondeur sociale et politique souvent masquée par sa banalité. Grataloup ne présente donc pas les denrées comme de simples curiosités botaniques. Il examine les conditions géographiques de leur production et les formes de pouvoir qui ont organisé leur mise en marché. Cette perspective évite de célébrer les échanges mondiaux comme un enrichissement culturel sans coût. Elle met en regard la commodité du consommateur et les structures inégales qui ont permis la disponibilité de ces marchandises. Le contenu des tasses devient alors un indice matériel de la construction impériale du commerce mondial. Troisièmement, la naissance d'un rituel bourgeois et les transformations du temps social en retraçant la formation du petit déjeuner dans sa forme moderne. Grataloup analyse aussi une transformation des rythmes sociaux en Europe. Le repas matinal ne correspond pas seulement à l'ajout de nouvelles boissons. Il accompagne une nouvelle organisation de la journée, des sociabilités et des distinctions sociales. Les consommations de thé, café ou chocolat ont pu être associées à des lieux, à des manières de servir et à des capacités achats qui les distinguaient initialement des habitudes populaires. Leur diffusion progressive aide à comprendre comment des produits venus de loin deviennent des repères de normalité domestique. Le livre relie cette évolution à la montée de la bourgeoisie et à l'industrialisation, sans réduire mécaniquement une évolution culturelle à une cause économique unique. Les horaires de travail, la vie urbaine, le développement des marchés et la standardisation des approvisionnements contribuent ensemble à installer le repas du matin. Cette dimension est importante car elle montre que la mondialisation transforme aussi les usages du temps. Une denrée importée ne prend sens que lorsqu'elle est intégrée à une routine, à des objets, à des recettes et à des attentes collectives. Le petit déjeuner révèle ainsi la manière dont les sociétés européennes ont domestiqué des produits lointains. La familiarité actuelle de ces boissons est le résultat historique de cette incorporation sociale, et non la preuve de leur origine européenne. Quatrièmement, la division Nord-Sud, lisible dans les chaînes de production et de consommation. Une des contributions majeures de l'ouvrage consiste à articuler l'histoire du petit déjeuner et genèse de la division Nord-Sud. Les espaces qui fournissent les matières premières tropicales ne sont pas placés dans la même position que les espaces où se concentrent transformation, commercialisation et consommation. Cette dissymétrie aide à comprendre pourquoi les cartes économiques du monde ont longtemps opposé des régions productrices de denrées exportées à des régions capables de maîtriser. Les circuits de valeur. Gratalou utilise les boissons du matin pour rendre cette structure intelligible sans en faire un schéma figé ou purement géographique. Les rapports Nord-Sud ont une histoire, ils se forment par les empires, les échanges inégaux, les infrastructures commerciales et la concentration de pouvoir dans certaines économies. Le livre éclaire également le rôle des grandes firmes dans la poursuite de ces chaînes mondiales. Cela ne signifie pas que tous les territoires du Nord ou du Sud se ressemblent, mais que cette représentation possède des racines matérielles et historiques. La lecture invite donc à interroger la provenance des produits et la répartition des bénéfices tout au long de leur parcours. Elle fournit une entrée concrète dans les débats sur commerce mondial, héritages coloniaux et dépendance économique. Le petit déjeuner devient un observatoire précis des écarts entre lieux de culture et lieux de consommation. En dernier lieu, changer de focale pour relier gestes domestiques et histoire mondiale, la singularité intellectuelle de Gratalou tient à son usage de la géohistoire. Cette démarche consiste à varier les échelles afin de comprendre comment les positions relatives des sociétés dans l'espace influencent leur trajectoire. Le livre part de la table du matin, mais il ne reste jamais enfermé dans le cadre domestique. Il passe des plantes et de leurs aires de culture aux routes maritimes, des politiques impériales aux habitudes alimentaires, puis des transformations européennes aux déséquilibres mondiaux. Ce changement de focale ne sert pas seulement à rendre le propos vivant. Il montre que les réalités quotidiennes sont produites par des relations qui dépassent largement les frontières nationales. Une tasse de café ne constitue pas une preuve totale de la mondialisation, mais elle permet de poser des questions précises sur les circulations, les hiérarchies et les représentations du monde. Cette méthode distingue ouvrages des histoires culinaires centrées sur les recettes ou les saveurs. Les boissons sont ici des instruments d'analyse spatiale et historique. Elles révèlent aussi le rôle des représentations, ce qui paraît traditionnel, naturel ou local, peut dépendre de longues chaînes de relations mondiales. En donnant une forme tangible à ces mécanismes, le livre aide le lecteur à relier consommation ordinaire, histoire globale et géographie des inégalités, sans perdre de vue la matérialité des produits. En conclusion, le monde dans nos tasses s'adresse aux lecteurs intéressés par histoire globale, géographie, alimentation, commerce colonial ou histoire des pratiques quotidiennes. Il conviendra aussi aux étudiants et enseignants qui cherchent une entrée concrète dans les mécanismes de la mondialisation moderne. Son principal bénéfice intellectuel est de rendre lisibles des phénomènes de très grande échelle à partir d'un rituel banal. Après cette lecture, thé, café, chocolat et sucre ne sont plus seulement des préférences gustatives, ils renvoient à des origines végétales, à des routes commerciales, à des formes de travail, à des empires et à des inégalités de position entre régions du monde. Cette attention peut enrichir une réflexion actuelle sur les chaînes de valeur et sur les héritages coloniaux, sans prétendre fournir à elle seule une histoire exhaustive de chacun de ces produits. Par rapport à une histoire classique de l'alimentation, le livre se distingue par le déplacement sans de son regard. Il ne traite pas le petit déjeuner comme un objet anecdotique ni comme une suite de traditions nationales. Il en fait un poste d'observation de la formation du monde moderne. Par rapport aux synthèses générales sur la mondialisation, il offre inversement une porte-entrée très matérielle et immédiatement reconnaissable. La compétence de géohistorien de Gratalou permet de relier espace, temporalité et rapport de pouvoir avec clarté. Ce livre se recommande donc à qui veut comprendre comment un usage intime et répété peut porter la mémoire de relations planétaires complexes. Si vous souhaitez soutenir Christian Gratalou, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.